Alors vous savez, parfois la finance, c'est exactement comme les lendemains de soirée. Vous savez, ces espèces de soirées où on s'est dit « Non, non, mais t'inquiète, je rentre tôt, je vais juste prendre un verre. » Et puis 2 heures plus tard, ben, vous chantez du Claude François sur la table du bar avec une bouteille de tequila dans la main. Sur le moment, c'est génial, l'impression d'être invincible, le monde nous appartient et on découvre soudain qu'on a des talents de danseur que personne ne soupçonnait. Et puis le lendemain, le réveil sonne et on sait même plus dans quel fuseau horaire on se trouve. La tête qui résonne comme des cymbales, la bouche sèche comme le Sahara et ce fameux train à vapeur qui tourne juste derrière les yeux. Et puis là, vous vous jurez solennellement plus jamais ça, jusqu'à la prochaine évidemment, parce que la mémoire sélective, c'est pas qu'une invention des économistes, c'est aussi une stratégie de survie humaine. Eh ben, lundi, sur les marchés, c'était exactement ça. Vendredi, on avait sabré le champagne parce que Powell avait laissé entrevoir du bout des lèvres, presque à contre-cœur, qu'une baisse des taux en septembre, ça n'était pas totalement impossible. Et là, Wall Street s'est soudainement enflammé, les traders se sont mis à acheter comme si c'était la fête nationale, les indices ont dansé le French cancan, et tout le monde s'est dit, bah, voilà, c'est gagné, champagne pour tout le monde. Plus jamais faible. Mais voilà, après 2 jours de digestion d'alcool, de digestion d'illusions, certains ont fini par relire le discours, tranquillement, hein, le discours de Powell, à tête reposée, parce que soyons honnêtes, vendredi, personne n'a vraiment écouté ce qu'il disait. On a juste entendu ce qu'on voulait entendre, c'est-à-dire baisse des taux, le reste. Évidemment, on a un petit peu zappé. Alors hier matin, c'était le réveil brutal, la gueule de bois collective. Ah oui, mais en fait, il y a encore pas mal d'obstacles et de loups sur la route avant le 17 septembre. Et là, forcément, forcément, on a eu ce petit goût amer au fond de la gorge, ce mélange de regrets et de remords. Regret de s'être enflammé trop vite, remords d'avoir couru derrière le marché sans vraie raison et sans vraie conviction. Bref, lundi, c'était un lundi type gueule de bois. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 26 août 2025 et si vous ne le savez pas, demain soir, c'est Nvidia Day. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon alors attention, hein, on regrette pas non plus complètement la soirée de vendredi, enfin pardon, la séance de vendredi, mais soyons francs, hier, il y avait quand même un tout petit goût de remords quelque part, comme si on avait couru après le marché sans vraiment être convaincu de l'histoire. Oui, Powell a été plus colombe que faucon, mais franchement, j'ai connu des colombes vachement plus inspirées. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en principe, et j'insiste sur le mot en principe, les taux devraient baisser en septembre. En principe, parce qu'avant ça, il reste un obstacle majeur. Déjà, le chiffre du PCE de vendredi, attendu à 2,6% sur un an, stable par rapport à juin. Mais attention, le core PCE, celui qui enlève la bouffe et l'essence pour mesurer la tendance de fond, lui serait en train de grimper à 2,9%. Et ça, c'est la boussole de Powell. Concrètement, si ça sort à 2,9%, ou plus, hein, les 85% d'optimistes qui allument des cierges pour une baisse des taux vont vite devoir ranger l'encens et passer au sacrifice vaudou en espérant sauver les meubles. Du coup, hier, tout le monde a levé le pied, on s'est dit, ouais, finalement, Powell a peut-être parlé trop vite et nous, on a peut-être entendu ce qu'on avait trop envie d'entendre. Oui, parce qu'en réalité, il faut quand même bien le dire, Powell n'a rien garanti du tout, absolument rien. Pire, si on lit entre les lignes, n'importe quelle stat économique d'ici le 17 septembre peut nous faire basculer du côté des faucons. On appelle ça un hangover trade. Le vendredi, t'as l'euphorie, le lundi, c'est retour brutal à la réalité. Et pour rajouter une petite tension dramatique, demain soir après la clôture, c'est Nvidia qui publie ses résultats. Oui, Nvidia, l'action qui peut faire bouger le S&P 500 comme une boule de flipper.
Même joueur joue encore.
Bon, je dramatise peut-être un petit peu parce que la baisse était mesurée hier, hein, finalement, mais quand même. Grosso modo, le Dow Jones a perdu 0,77%, le S&P 0,43%, le Nasdaq 0,22% et Nvidia, ben Nvidia elle est toujours en pleine forme. Elle a encore pris 1,02% à deux doigts de son record historique. Intel, de son côté, a reculé après l'annonce officielle et définitive comme quoi les États-Unis vont prendre une participation dans la société. Alors oui, vous avez bien entendu, l'État devient actionnaire. Ça sent un petit peu la soviétisation de la techno. Et en général, quand ça devient politique dans les marchés, ça finit jamais très très bien. Parce que c'est pas non plus des monstres experts. Enfin, sinon la dette américaine ne serait pas à 38 000 milliards non plus. Et puis côté corporate, eh bien sûr, on en a parlé hier, Keurig Dr Pepper qui s'est pris 11,5% dans les dents après avoir lâché 18,4 milliards cash pour acheter JDE Peet's. Comme quoi, le café à 8 balles au Starbucks, finalement, c'est pas si cher. Voilà, hier, c'était une séance de marché avec un parfum de lendemain de fête, la tête qui bourdonne, l'estomac fragile et cette petite voix intérieure qui dit « la prochaine fois... » Vas-y, tranquille. Et puis alors, en Europe, c'était un peu la même ambiance, en un tout petit peu plus morose. Le Stoxx 600 perdait 0,4%, le DAX pareil, et le CAC 40 décrochait carrément de 1,6%. Alors Paris, c'était un peu la lanterne rouge du continent, parce que notre génialissime François Bayrou a décidé de mettre son gouvernement au vote de confiance le 8 septembre. Alors, est-ce qu'il aura la confiance de ses potes politiciens? Ça, on n'en sait foutrement rien. Mais une chose est certaine, du côté des investisseurs, c'est mezzo mezzo le côté confiance. C'est pas le mot qui figure tout en haut de la liste. Il faut dire que le budget pondu, c'est pas non plus la lecture la plus sexy pour le français moyen. Surtout quand le Premier ministre vient t'expliquer que toi, citoyen lambda, tu vas devoir serrer la ceinture pour réparer les d'une bande de qui ont dépensé plus qu'ils ne gagnaient, pendant que leur économiste en chef écrivait des bouquins classés X, forcément, la pilule passe moyennement bien. Du coup, note à moi-même, le 10 septembre, évitez de partir faire du shopping à Paris, et si j'étais Bayrou, j'en profiterais pour faire mes cartons. Dans le reste du marché, pression maximale sur l'éolien aussi, parce que Ørsted a perdu 16% après que Trump ait suspendu, sans surprise, son projet offshore aux USA. Message subliminal made in Donald Trump, l'énergie verte ne passera pas par moi. Derrière, Vestas, Siemens Energy et consorts sont tous fait démonter dans la bonne nouvelle. Heureusement, il y a eu quelques rescapés, puisque par exemple, on a Puma qui a bondi de 16%, et Puma qui a bondi, j'avoue, c'est facile. Grâce à la famille Pinot qui envisage de céder leur participation, et JDE Peet's qui a lui a pris 17%, puisque Keurig Dr Pepper est passé à la caisse, ça, on en a déjà parlé il y a 30 secondes. Bref, l'Europe a ses propres casseroles, ses propres démons, mais si vous rajoutez par-dessus les angoisses de Wall Street sur les taux et le stress autour de Nvidia, ça n'aide pas à se mettre dans l'ambiance euphorie du lundi matin. L'Europe a donc fait la gueule, la France boudait, l'éolien prend l'eau, la semaine ne démarre pas exactement sur des chapeaux de roue en Europe, ni aux États-Unis d'ailleurs, en gros nulle part sur les marchés actions. Du côté du baril, on est en mode... pas de deal, pas de paix, mais le baril qui grimpe. En effet, la guerre s'enlise, les négociations patinent, Moscou dit qu'aucune rencontre n'est prévue. Résultat, le pétrole remonte, on reparle même de sanctions américaines sur le brut russe. Le WTI ce matin se traite à 64,45. Et pendant que les marchés piquaient du nez tranquillement, Trump a dégainé un nouvel épisode de sa série préférée, la Maison Blanche contre la Fed. Il a donc annoncé qu'il virait Lisa Cook, gouverneur de la Fed, première femme afro-américaine à siéger au board. Visiblement, il prend très à cœur son métier de DRH. La version officielle, eh bien, fraude hypothécaire, elle aurait déclaré deux résidences principales, ce qui est strictement illégal. La version officieuse, ben Trump, il a juste sauté sur l'occasion pour caser un de ses nouveaux pions à la Fed. Comme il l'a déjà fait avec Miran, Powell, lui, commence à se sentir un tout petit peu seul pour les derniers mois qui lui restent à passer à la tête de la Réserve fédérale. Sauf que, petit hic quand même, un président peut virer un gouverneur pour faute grave, mais la Fed n'est pas vraiment une agence lambda, c'est pas le BLS, et là on part clairement pour un bras de fer juridique qui pourrait durer et qui pourrait finir devant la Cour suprême, donc on n'a pas encore vraiment la vision de ce que sera comme conséquence sur la Fed. Lisa Cook n'a aucune intention de se laisser faire, et Elizabeth Warren la soutient, et a déjà sorti le lance-flamme en estimant que Trump était un putschiste monétaire. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est un putschiste monétaire. Du côté des marchés, l'annonce n'a quasiment rien fait bouger, une légère faiblesse du dollar et une courbe des taux qui se pontifie un poil, mais vraiment pas de panique, et comme souvent avec Trump, c'est du bruit à court terme. Le problème, c'est que tout ce bruit-là, il s'accumule et puis des fois, ça finit pas très très bien. Non, parce que, en fait, en virant Cook, il essaie clairement de grignoter encore un peu plus de pouvoir à la Fed. Et la fin de l'indépendance de la Fed, c'est pas trop un truc qu'on a envie de se coltiner durant l'automne. Elon Musk, lui, il continue son show. Cette fois, il balance deux procès en même temps, un contre Apple, un contre OpenAI. Motif, monopole et entrave à la concurrence. En gros, il accuse Apple de favoriser ChatGPT dans l'App Store, c'est pas nouveau, ce qui bloque son propre bébé, XAI, et son chatbot, Grok. Résultat, Tesla gagne 1,9%, Apple bouge à peine et OpenAI mari répond que c'est du harcèlement et qu'ils ont, je cite, d'autres chats à fouetter. De toute façon, ils s'en foutent, ils sont pas à côté. Voilà, quand Musk ne construit pas des fusées, il construit des procès et des partis politiques bricolés. Autrement, Mercedes veut vendre sa participation dans Nissan. Nissan a moyennement apprécié la nouvelle ce matin à Tokyo. Lutnik promet des updates cette semaine sur les 550 milliards de dollars à investir aux USA liés aux accords sur les droits de douane. Et justement, du côté droits de douane, Li Chenggang, un haut négociateur chinois, serait censé débarquer cette semaine à Washington pour relancer le dialogue. Vu que la trêve est prolongée jusqu'en novembre, il faudra quand même se bouger les fesses à un moment. Il y aura des discussions avec la Maison Blanche, le Trésor, le business américain. Bref, opération calmer le jeu sur les terres rares et l'attaquer. Trump, fidèle à lui-même, rêve bien sûr déjà d'un sommet avec Xi lui-même. Il parle même d'un voyage en Chine, parce qu'entre deux menaces de tarifs douaniers, il adore promettre des grandes relations type « best friend forever ». Et entre le baril qui chauffe, Trump qui vire Cook, Musk qui dégaine ses procès et la Chine qui prépare son voyage diplomatique, on a eu droit à une séance de marché digne d'une saison complète de House of Cards. Nous sommes donc mardi, et franchement, tout le monde s'en fout du mardi, parce qu'en fait, les yeux sont déjà rivés sur demain soir. Pourquoi demain soir? Parce que demain soir, c'est les résultats de Nvidia qui vont tomber. On les attend depuis avril dernier au moins, et là c'est très très simple. Soit ça rassure tout le monde, et le marché repart comme un feu d'artifice, soit ça déçoit tout le monde, et tout le château de cartes pourrait s'écrouler. Rappel, Nvidia c'est 8% du S&P 500. Autrement dit, si Nvidia éternue, Wall Street c'est plus un rhume qui chope, c'est beaucoup plus grave que ça. Alors évidemment, les investisseurs, eh bien ils sont un tout petit peu tétanisés, ça se ressentait aussi dans la séance d'hier. On pourrait d'ailleurs presque oser le mot tabou de bulle spéculative. Mais chut, hein, parce que ça ne se dit pas, bulle spéculative sur l'IA, c'est très très mal vu, on ne peut pas le dire, c'est limite illégal, c'est un peu comme critiquer, je sais pas, la baguette en France, la fondue en Suisse, c'est très très mal vu. L'IA, c'est censé nous rendre tous très 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 riches, alors il faut pas non plus dire du mal. Alors en attendant, on continue de jouer de la musique en battant le rythme avec l'orchestre, même si le Titanic il tangue un peu, mais demain soir, ça va chauffer, en tout cas ça pourrait chauffer. Alors si vous voulez savoir ce qu'il faut guetter, ce qu'il faut attendre, ben, j'ai fait une vidéo spéciale rien que là-dessus. Vous avez le lien en commentaire là-dessous. L'image de la vidéo, c'est celle-ci tout en vert. Et mercredi soir, vers minuit, rebelote. Je vous débrieferai les chiffres du géant de l'IA en vidéo avec un morning bull noctambule. Alors si vous voulez ne rien rater du show et lumière de Nvidia, abonnez-vous, activez la cloche, likez, partagez, commentez et revenez le plus souvent possible. En attendant, méditez bien sur Nvidia, prenez des notes, soyez prêts pour demain soir, respirez un grand coup et à demain! Bye bye.